Chronique de Beaulieu, numéro 5. Nous allons vous parler aujourd'hui d'art brut, avec M. Bouillet qui présente sa collection dans la salle des convers de l'abbaye de Beaulieu, vernissage de l'exposition samedi à 16h. Nous allons vous dire comment s'est passée l'exposition de Bettina von Arnim qui s'est terminée ce dimanche. Puis ensuite, nous vous parlerons d'un écomusée que peu de gens connaissent. Ils passent devant sans se rendre compte de la richesse du matériel qui est entreposé dans cet écomusée. Ce sont les outils d'antan à Verfeil. Daniel, tu peux nous donner des informations sur l'exposition de Bettina von Arnim ?
Oui, bonjour à tous. Alors, cette expo, donc, c'est terminé. Nous avons réussi à avoir le même nombre de personnes, même un peu plus que l'an dernier, c'est-à-dire autour de 2200 personnes. Donc, il y a eu également par l'association l'achat d'une œuvre, puisqu'on nous demande donc de faire cet effort au niveau de l'association, c'est-à-dire pour rémunérer un petit peu les artistes d'acheter une œuvre. Donc, fin de cette expo dimanche passé. Donc, il y a eu le livre d'or et a été largement enthousiaste. Les gens n'osent pas écrire, c'est ça le problème. Ils sont un peu timides, il faut les forcer un peu des fois. Et quand c'est écrit, il y a toujours des réflexions enthousiastes. Donc, par contre, par rapport à cette peinture, bien sûr, très particulière, il y a un problème qui s'est posé très rapidement, c'est une nécessité d'accompagnement. Donc c'est très difficile à savoir quand on garde l'expo, est-ce qu'il faut talonner les gens pour vraiment à tout prix donner une explication ou les laisser tranquilles. Bon, on a pris un peu la politique de les laisser aller d'une œuvre à l'autre, puis de les rattraper en cours de visite et de leur donner donc quelques pistes de réflexion. C'est pas évident, c'est vrai, cette peinture, les gens arrivent avec le souhait de découvrir quelque chose de très esthétique, alors qu'en fait, il y a toute une pensée, toute une réflexion. C'était assez difficile à ce niveau-là. Bettina, c'est un artiste qui commence à être très, 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 très connu en Allemagne. Donc, il y a eu des expos à Berlin, qui a eu également des expositions à Francfort, et qui a des œuvres dans les musées, au niveau de Francfort, en tous les cas. Et donc, comme elle a une double culture, c'est-à-dire française et allemande, qu'elle habite à Concotz, près de Cahors, on a donc souhaité faire cette expérience qui s'est avérée une réussite. Donc voilà pour.
Est-ce que Élodie peut nous dire, Élodie qui est notre salariée de service civique, qu'on espère bien conserver ensuite. Élodie a imaginé un jeu pour les enfants à partir donc des peintures de Bettina. Tu peux nous en parler un peu?
Bien, on a essayé de trouver une manière d'aborder l'exposition pour les enfants parce qu'il fallait un petit peu aiguiller leur regard et les forcer à regarder les toiles sans passer d'œuvre en œuvre très vite, chose que font souvent les enfants qui ne sont pas toujours intéressés par les promenades des parents. Donc on a choisi des thématiques phares et on a posé des petites questions à la fois pour les forcer à s'arrêter un petit peu et aussi pour leur inculquer des notions autour du labyrinthe vu que c'était quelque chose de fondamental dans l'expo de Bettina.
Oui, d'abord, d'autres questions ?
Non.
Voilà, alors donc nous continuons notre saison avec la deuxième exposition qui, normalement, pour Beaulieu, a un caractère un peu plus international. Et donc, cette fois-ci, c'est une originalité dans laquelle nous nous lançons, c'est-à-dire, donc, c'est sur l'art brut. Alors, nous avons trouvé le personnage de référence, donc, pour nous accompagner dans cette recherche. C'est donc Alain Bouillet, qui est amateur d'art et qui habite à côté de Sommières, et qui donc nous a confié combien d'heures ? 85 œuvres. Et donc, tout de suite, dans les discussions qu'on a eues pour sympathiser, bien sûr, pour se connaître, c'est d'abord la question épouvantable pour Alain, sans doute, c'est de nous donner une définition de l'art brut.
Alors, oui, évidemment, cette question est paraît épouvantable, parce qu'effectivement, il n'y a pas de définition de l'art brut. L'art brut, c'est une invention, notionnelle de Jean Dubuffet en 1945, et je crois qu'il l'avait faite surtout pour s'opposer à ce qu'il appelait, lui, l'art culturel, c'est-à-dire l'art de tous les autres peintres du moment, les plus académiques comme les moins académiques, mais qui, disait-il, ne font que répéter, n'ont aucune invention. Voilà. Donc, lui était allé chercher cet art brut. Dans les premiers temps, il n'était pas le premier à le faire d'ailleurs, mais dans les premiers temps, il était allé le chercher en Suisse, dans les années 1945, avec Paulhan en particulier et Le Corbusier. Et il avait trouvé ces objets et ces ouvrages dans les hôpitaux psychiatriques. C'est ce qu'avant on appelait évidemment l'art des fous ou l'art psychopathologique. Ouais. Très très vite, Dubuffet va d'ailleurs s'apercevoir que ces choses qu'il recherche, qu'il recense, ne sont pas que dans les hôpitaux psychiatriques. Il peut très bien y avoir quelqu'un à côté de chez vous qui n'apparaît pas comme un malade mental, ni comme une personne un peu dérangée, et qui fait, à l'insu de tout le monde, y compris de sa famille et de ses proches, des dessins, des objets, des broderies, des tapisseries, qu'il ne montre pas. Presque personne ne connaît son activité. Et d'ailleurs, souvent, beaucoup de ces personnes disparaissent sans que personne n'ait jamais su, effectivement, qu'il y avait des choses qui existaient, sauf qu'on les retrouve dans un grenier, par hasard, ou dans une cache. Parce que, et c'est pour ça que je dis toujours des auteurs et pas des artistes, la question du montrer, du faire voir, d'être connu ou reconnu, n'a aucun sens pour ces personnes-là. Ils ne se définissent pas comme des artistes parce que, le monde de l'art leur est totalement étranger. Et d'ailleurs, ils sont toujours très choqués, très intrigués quand on leur dit que ce sont des artistes. C'est pourquoi, par respect d'ailleurs, je ne les appelle pas des artistes. Mais Dubuffet ne les appelait pas des artistes non plus. Il disait des artistes et il disait des ouvrages plutôt. Comme on dit des ouvrages de dames, par exemple. Ces objets, en général, ne sont faits qu'à leur propre destination. C'est pour ça qu'un, on ne les rencontre nulle part. Enfin, on ne les rencontrait nulle part. Il faut tout de suite dire immédiatement que dès que la collection de Dubuffet a été connue, le marché de l'art également s'en est emparé. Et que peut-être le marché de l'art est en train de détruire les ouvrages des auteurs d'art brut. Et même le simple fait de produire des choses. En tout cas, ça peut être quelqu'un qui habite à côté de chez vous, que vous rencontrez dans la vie, dans la rue ou dans la vie chaque jour, et dont vous ignorez totalement l'activité productrice. Voilà. Et que peut-être vous ne verrez jamais. Voilà, donc pas de définition, sinon une définition en creux. Ce qu'on peut dire de l'art brut, c'est que ça s'oppose à toutes les autres choses existantes. Et d'ailleurs, entre eux, ils ne se connaissent pas. Alors que dans le milieu artistique, chacun sait à peu près qui fait quoi. Chez les auteurs d'art brut, personne ne connaît personne. Personne ne va voir les expositions d'aucun. Enfin, ils sont totalement hors du milieu. Alors peut-être que la question qui vient après, ça serait pourquoi les montrer ?
Mais c'est-à-dire, la question, oui, c'est ça. C'est-à-dire, est-ce qu'on les trahit en les montrant ? Qu'est-ce qui se passe ?
Alors ça, c'est compliqué. C'est compliqué parce que d'une part, ces auteurs, il faut les rencontrer. D'une part, il faut les dénicher. Tout ça fonctionne par des systèmes de bouche à oreille, de trouvailles, de marché aux puces, de décharges municipales. Enfin, on trouve des choses de temps en temps et on enquête, on poursuit, voilà. Quand on a un nom, on essaye d'entrer en contact. C'est long. C'est long parce qu'il y a des tas de blocages qui s'installent. C'est pourquoi voulez-vous me voir ? Qui vous a dit que ? Comment me connaissez-vous ? Bon. Donc il y a toute une mise, il y a une éthique de la confiance là qui s'installe. Cette éthique de la confiance qui commence à s'installer, elle se traduit par une demande de visite. Est-ce qu'on peut aller vous voir ? Parfois oui, mais ça n'est pas aussi franc que ça. On passe par des détours. Donc on arrive à fixer une date, et puis vous, en tant qu'amateur, vous y allez pour voir des choses. Mais il n'est pas du tout certain que vous les voyez. Ça peut prendre une rencontre, deux rencontres, 10 rencontres. On peut prendre un pot, discuter, parler, repartir, revenir. Bon. Au bout de la 10e rencontre, on va peut-être accepter de vous montrer quelque chose. Et puis, de rencontre en rencontre, des liens se tissent, une confiance s'installe et on va un peu plus loin. Mais il y a beaucoup de travail de don de soi dans cette histoire-là. C'est-à-dire qu'il faut savoir entendre, il faut savoir écouter, il faut savoir être présent. Il faut savoir se positionner vis-à-vis de l'autre. Il ne faut pas exiger de voir immédiatement, par exemple. Ça n'a pas de sens. C'est un blocage complet. Par exemple, j'ai le souvenir de cet homme qui m'avait rencontré, qui vivait dans une cuisine, dont toutes les fenêtres étaient occultées par du papier journal, et qui m'avait dit « monte donc ». Alors, je lui avais téléphoné, il savait que je venais, je monte. Il venait de se lever de son lit, qui était dans la cuisine. Il se remet dans son lit, il me dit « assieds-toi là ». Je m'assieds et en boucle, pendant 3 heures, il me raconte son histoire de vie. D'où il vient, quel était son père, qu'est-ce qu'il a fait, comment il est devenu joueur d'accordéon dans les bals. Enfin, bon. Pas un mot sur les dessins, pas un mot sur son activité. Dessins que je connaissais, que j'avais vu, par ailleurs. Au bout de 3 heures, il me dit « eh bien écoute, tu m'as assez écouté, maintenant on peut aller voir les dessins. » C'est-à-dire, il fallait en passer par une mise à l'épreuve. Voilà, une mise à l'épreuve. Qui permette, pour lui, de savoir qui j'étais, quelles étaient mes intentions, si j'étais capable d'entendre, d'écouter. Voilà. Alors voilà, ça se passe souvent comme ça. Donc ça, c'est pour arriver chez les auteurs d'art brut et commencer à voir ce qu'ils produisent. Ensuite, en acquérir, alors là, ça prend encore bien quelques mois. C'est-à-dire, ils sont toujours très étonnés qu'on veuille acquérir ces choses-là. Quoi. Parce que ce sont des choses qu'ils font à leur propre usage, et leur question, fondamentalement, c'est « mais pourquoi vous voulez les acquérir ?» C'est-à-dire, qu'est-ce que vous allez en faire ? Et alors là, on rentre dans d'autres questions sur à quoi ça sert, pourquoi vous les faites, qu'est-ce que moi j'y trouve. Il nous faut encore 3-4 bonnes rencontres. Si de temps en temps on arrive à en acquérir, mais tout ne s'acquiert pas, il y a des choses qui sont réservées, qui ne sortiront jamais. Certaines peuvent sortir, on ne sait pas pourquoi. Ensuite, il y a la question du contre quoi, acquérir, mais contre quoi. Alors là, ça va de rien jusqu'à la paire de bottes, un téléviseur, enfin, tout y passe. Rarement de l'argent, en fait, plutôt des objets, des services. Est-ce que vous pouvez aller acheter des boîtes de canigou pour mon chien, par exemple, enfin, des choses comme ça. Voilà. On est plus près du troc, en fait. On est beaucoup plus près du troc. Et puis, acquérir, bon, on repart avec une chose ou deux choses, ou 3, ou 10, ou 20, enfin, ça dépend. Mais la question, c'est toujours, pourquoi faire ? Alors moi, je reprends la parole et je dis, est-ce qu'on peut les montrer ? Alors ça, les montrer, c'est pas certain. C'est-à-dire, la question se retourne, c'est qu'est-ce que vous voulez en faire ? Pourquoi vous voulez les montrer ? Parce que eux, en général, ils ne les regardent jamais. Ils les font. C'est faire qui est important, mais regarder, ça n'a pas tellement d'importance. Donc, alors, il faut expliquer que moi, ça m'intéresse pour telle et telle raison, pourquoi je les veux, pourquoi bon. Et puis, parfois, on reçoit l'accord, si vous voulez. On peut les montrer, par exemple, les 85 auteurs qui seront, les 85 pièces qui seront exposées à Beaulieu, qui viennent de 35 auteurs différents, elles ont toutes reçu une approbation tacite. Je peux les montrer. Mais j'ai chez moi des choses que je ne peux pas montrer. Même à des gens en privé qui viendraient à la maison. Donc celles-là, elles ne sortent pas. Voilà. Je veux dire que cette question de confiance, cette éthique de la confiance, cette éthique de la rencontre, elle est fondamentale, cette histoire-là. Fondamentale.
Est-ce que tu pourrais nous faire un lien avec la notion d'objet déplacé de Marcel Duchamp ? Donc là, on est dans cette... Ce titre condamne à certains objets, hein, objets déplacés, on est dans une histoire de la peinture. Tandis qu'avec l'art brut, il déplace ces objets ou il les associe, mais ce n'est pas des objets déplacés dans la définition
de Marcel Duchamp.
De Marcel Duchamp.
Non, du tout, du tout. Ouais. Alors, ils sont complètement hors des règles. Par exemple, tout le vocabulaire de l'esthétique, il est totalement inapplicable à l'art brut. Inapplicable. La composition, ça n'a pas trop de sens. L'équilibre des couleurs, des formes, des choses comme ça, ils n'y connaissent rien, ils sont totalement en dehors des courants artistiques. Et ils font... Bon, on dit souvent, ce sont des autodidactes. Non, ce ne sont pas des autodidactes, parce qu'un autodidacte, c'est quelqu'un qui essaye d'acquérir un savoir existant et reconnu avec ses propres moyens, ses propres méthodes. Eux, ils n'acquièrent pas de savoir, ils l'inventent. C'est leur propre savoir, voilà. Il n'y a pas de copie, il n'y a pas d'emprunt, il n'y a pas de choses comme ça. Donc les objets déplacés de Marcel Duchamp, ça ne leur dit rien, ça,
voilà.
Je pense, absolument.
Parce que je pense que... À certaines œuvres, ce sont des enveloppes oblitérées, il peut y avoir des fleurs séchées, des textes, des textes aussi, des collages.
Oui, voilà. Il y a des broderies aussi. Il y a beaucoup d'hommes qui brodent dans l'art brut. Il y a des gens qui font des tapisseries, par exemple. Il y a des hommes qui ont, dans les hôpitaux psychiatriques, défait un à un les fils de leurs draps et qui ont recomposé des tapisseries avec. Il y a des femmes, toujours dans les hôpitaux psychiatriques, je pense à quelqu'un qui était à Saint-Alban-sur-les-Magnols, qui s'est fait une magnifique robe en défaisant également les fils de ses draps et en se brodant une robe de mariée pour ses futures épousailles qu'elle n'a jamais eues. Donc, il y a tout un tas d'objets, mais ça n'est pas la même utilisation que l'on peut en faire dans l'art. Voilà. Dans l'art, il y a une utilisation esthétique, alors que l'idée d'esthétique, elle est fondamentalement absente des auteurs d'art brut.
Et est-ce que tu n'as pas remarqué un point commun qui serait le fait de remplir l'œuvre?
Alors oui,
la peur
ça,
du vide.
Oui, ça c'est évident. La saturation est à l'ordre à peu près dans tous les travaux, que ce soit les broderies, les tapisseries, les sculptures, les dessins, tout est saturé. Alors il y a plusieurs raisons à ça.
Ouais, voilà.
Il y a effectivement ce que tu signales là, c'est-à-dire l'horreur du vide. Et puis il y a autre chose, je pense, qu'on oublie toujours, c'est que la plupart de ces personnes... enfin tout du moins les plus connues, sont quasiment toutes décédées, donc elles sont d'un monde qui n'est plus le nôtre, et surtout d'un monde rural qui n'est plus le nôtre. Et donc c'est un monde dans lequel on a de peu de moyens, en particulier pour ce qui concerne le papier, l'encre, et des choses comme ça. Ils ont vécu dans cette misère fondamentale, ou dans cette pauvreté plutôt fondamentale, et donc le papier, ça ne se gâche pas. Je pense à Martha Grunewald, là, dont j'ai apporté deux dessins. Elle récupérait en cachette, très important. Elle récupérait les factures qu'avait un doublon, les tracts de sa fille, les affiches, qui était une militante dure, en cachette la nuit. Elle dérobait ou elle ramassait les morceaux de crayons de couleur de ses petits-enfants. Et la nuit, en cachette toujours, elle dessinait. Et presque toutes les choses que j'ai apportées sont toutes dessinées autour de factures, de tout un tas de choses. Voilà. Quand on a commencé à lui donner du papier, des belles encres, des crayons de marque, la qualité de la production est tombée parce qu'elle n'avait plus la possibilité de les dérober, je crois.
D'accord. Donc il y a une idée de récupération.
Alors il y a fondamentalement de la récupération, pas pour récupérer,
non,
mais parce qu'on est dans des milieux où on ne gâche pas. Quoi.
D'accord.
De même, Yvonne Robert, dont j'ai amené deux peintures sur toile, fille d'agriculteur, alcoolique, femme d'agriculteur, alcoolique, ayant une vie abominable avec passant de dépression en dépression, elle se met un jour à aller à Luçon, aux Nouvelles Galeries, et elle va acheter, dit-elle à la personne qui est au rayon, elle dit « je voudrais une boîte de gouache pour une petite fille de 10 ans ». C'est pour elle, évidemment, elle a 45 ans, mais bon... Et donc, elle repart avec sa boîte de gouache, et la nuit, en dehors de son mari et de ses enfants, elle se met à peindre. Elle s'assied sur une chaise, comme ça, elle met ses papiers devant, puis des toiles après, et elle trempe son pinceau directement dans les tubes, et elle se met à dessiner comme ça. Alors, pourquoi ? Bah parce que quand on est femme d'agriculteur, on ne perd pas son temps à faire de la peinture. On nourrit les cochons, les volailles, on fait tous les travaux domestiques, mais on ne fait pas de peinture.
Et oui, c'est du temps perdu.
C'est du temps perdu. Et elle le sait très bien, Yvonne. Ça, elle a 96 ans maintenant. Donc,
d'accord. Alors finalement, avec tout ce que tu nous dis là, est-ce qu'il n'y aurait pas une autre exposition en creux finalement, ou un phénomène de miroir? C'est-à-dire, tu nous as confié des œuvres peintes ou tricotées, ou etc., etc. Et finalement, c'est la personne que tu veux nous présenter. Quoi.
Oui, alors c'est pour ça que cette exposition a un titre et un sous-titre. Le titre, c'est « De l'humaine condition », et le sous-titre, c'est « Chemin faisant, pérégrination, rencontre et songerie d'un amateur d'art brut ». J'ai mis « amateur » au lieu de mettre « collectionneur » parce que je ne suis pas collectionneur. Je pense que c'est pathologique la collection. Pérégrination, parce que pérégrination, c'est...
Effectivement, oui, tu avais une critique sur la notion de...
Oui, oui, parce que je pense que les collectionneurs, les vrais collectionneurs, sont toujours des gens qui sont mus par, non pas par ce qu'ils ont, mais par ce qui leur manque. Donc ils sont toujours à la recherche de ce qui leur manque, la pièce importante qui leur manque, voilà. Or moi, ça, c'est pas ça qui m'intéresse trop. Les objets, ça m'intéresse, évidemment, puisque du coup, j'en ramène, et même j'en amène à Beaulieu. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est les rencontres. C'est-à-dire en quoi ces personnes m'apprennent des choses sur moi. Voilà.
Ouais, et il y a autre chose aussi qui m'intrigue, c'est que tu as des centaines de pièces, quoi. Ça a été quoi ton critère de choix pour ces 85 pièces ?
Alors, le plus souvent, des coups de cœur, évidemment, mais tout le monde dit ça, donc il faut passer à autre chose. C'est plutôt... Il y a du pédagogue en moi, c'est-à-dire je n'ai jamais pris, par exemple, les pièces qui pourraient paraître les plus importantes pour un musée. Celles qui témoignent de la qualité, celles qui témoignent de la réussite, celles qui témoignent de l'aboutissement. J'ai toujours choisi des pièces qui me permettaient de comprendre quel était le processus, c'est-à-dire d'où ça part, par où ça passe et où on arrive. Parce que ce qui m'intéresse fondamentalement, c'est comprendre, voilà. Comprendre qui sont ces personnes, comment elles travaillent, pourquoi elles produisent, qu'est-ce qu'elles en font, enfin voilà.
Oui, alors nous avons une exposition précédente, l'artiste ne voulait pas du tout qu'on mette de cartel. Et puis toi, au contraire, c'est une grande page que tu veux, où justement tu expliques un peu quel est le bonhomme, quelle est la personne qui se cache derrière cette œuvre. Donc on va avoir droit à de grands cartels, il va falloir lire.
Alors il va falloir lire et il va falloir entendre aussi, puisque j'ai proposé des visites accompagnées.
Voilà, c'est ça, bon. Oui.
Alors ça me paraît indispensable, parce que l'art brut, on ne peut pas le reconnaître d'emblée simplement parce qu'on voit. C'est-à-dire, on peut finir par comprendre que c'en est vraiment, c'est un problème de critères, c'est évidemment, et de critériologie. Si on arrive à croiser ce qu'on voit, quand on en a vu déjà beaucoup et qui nous donne l'impression que ça doit en être, et puis quand on connaît l'histoire de vie de la personne. Parce que ce croisement-là nous permet de pouvoir dire qu'effectivement, on a affaire à quelqu'un qui est vraiment un producteur d'art brut. Pourquoi ? Alors, il faut peut-être dire pourquoi j'ajoute ça. C'est parce que, inventé en 1945, l'art brut, la collection d'art brut de Dubuffet est passée en Suisse. Enfin, elle a été donnée en 71 et le musée de la collection de l'art brut s'est ouvert en 76. Et que donc, évidemment, immédiatement, ça a fait pôle de référence. Comment ça ? Dans des musées, des personnes qui n'ont fait aucune étude artistique, qui ne savent pas ce que c'est que peindre, qui ne savent pas dessiner. Bon, pourquoi pas moi ? Et il y a évidemment tout un tas de personnes qui se sont engouffrées dans cette histoire-là. Et très très vite, on s'aperçoit, même si... à travers les productions, on peut être intrigué ou interrogé par ce qui se montre. Quand on commence à entendre l'histoire de vie de la personne, on s'aperçoit qu'il n'en est rien. C'est-à-dire qu'il y a là une appellation qui est un peu usurpée. Voilà. Donc c'est très important d'avoir les deux, et c'est pour ça que je vous ai proposé à Beaulieu, à la fois avec Patricia Vallet, un parcours sensible, pour qu'on se mette en état de recevoir ces choses-là, qui ne sont pas toujours très évidentes. Je veux dire que, par exemple, à la collection de l'art brut, c'est surprenant de voir en quoi il y a des positions très extrêmes.
Oui, tu as eu des expériences déjà là-dessus. Raconte-nous un petit peu.
Oui, tout à fait, puisque ce n'est pas la première exposition. Cette exposition était en partie à Bages l'année dernière, à Bages d'Aude. Elle est restée pendant 3 mois. Bon, et puis j'ai quand même, ça fait quand même 40 ans que je navigue dans ce milieu-là. Donc on sait très bien que les réactions des gens sont des réactions très inconscientes, soit dans l'exécration totale ou l'insupportabilité. Il y a des gens qui sortent, par exemple, à la collection de l'art brut.
Ça les inquiète.
Ça les inquiète, oui. D'une part, on est dans le noir, à Lausanne. Et puis, toutes ces choses-là vont les travailler souterrainement et visiblement leur ramènent des choses qu'elles n'ont pas trop envie de connaître, donc elles sortent. Et puis, il y en a d'autres qui restent totalement fascinées et qui passent 2 heures, 3 heures à la collection de l'art brut. Et à Bages, l'année dernière, où je faisais des visites accompagnées qui duraient 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures, où les gens étaient debout, l'été, en pleine chaleur, dans ce bâtiment, il y avait des gens qui venaient à la fin et qui me demandaient « Est-ce que vous êtes encore disponible ? Parce que là, j'en ai vu un en bas, vous n'avez pas dit grand-chose, est-ce que je pourrais en savoir plus ?» Bon, il y a un problème d'identification, voilà. Et donc, je me dis que c'est le lieu qui me paraît un lieu très important pour que, justement, on puisse traiter et approfondir des questions qui surgissent inconsciemment chez les personnes. Et c'est pour ça que j'ai misé sur ces choses en proposant les visites accompagnées. Ça n'est pas question, une question de savoir, c'est-à-dire qui est qui, mais c'est plutôt essayer de voir comment on peut travailler avec les personnes qui viennent, qui sont confrontées pour la première fois à des choses de ce genre, et chez qui ça réveille inconsciemment des états affectifs ou passés ou encore présents qui ont besoin de s'éclaircir. Et voilà, je pense que fondamentalement, mon travail, il est là.
Visite guidée, parcours sensible, tu fais une différence ?
Oui, tout à fait. Voilà, le parcours sensible, il est préparatoire. C'est-à-dire que Patricia organise avec un groupe de personnes un parcours qui permet de toucher, de sentir des choses, de mettre les sens en éveil, et surtout de laisser un peu tomber la raison, plutôt en essayant de développer tout le côté sensoriel, c'est-à-dire une mise en éveil du regard, de l'écoute, de la sensibilité, et même par la parole. Il y a des discussions qui s'instaurent, enfin voilà. Et à partir de cette préparation, on a essayé de construire quelque chose qui permet justement de laisser tomber un peu les défenses par rapport à ces objets.
Ouais, on comprend petit à petit le titre de l'humaine condition.
Voilà, quoi. Voilà. Et alors, pour répondre à ta question, les visites accompagnées, ça n'est pas simplement le fait de savoir si ça s'en est ou ça s'en est pas, mais plutôt, mais ça c'est ma recherche particulière, comme j'ai rencontré la plupart de ces personnes, j'ai appris sur elles des choses qui peuvent éventuellement permettre pour les visiteurs d'éclairer la compréhension des objets qu'ils ont sous les yeux.
Oui, voilà. Alors donc, il va bien nous falloir profiter de ces visites, puisque tu vas revenir nous voir.
Oui.
Donc, ça sera le 10, c'est ça ? 10
voilà, juillet. Après le vernissage.
Voilà. Et ensuite, le 23, 24, 25.
Et 25 juillet.
Juillet aussi. Donc, à l'après-midi,
oui.
À 14h. Donc, vous pouvez vous inscrire sur le site. Toutes ces dates, toutes ces références sont sur le site de l'association. Donc, vous avez la possibilité de vous inscrire, ce qu'on vous conseille fortement, puisqu'on voudrait que soit limité une vingtaine de personnes,
oui.
Voilà, sinon le caractère intimiste a des difficultés à se créer, quoi.
Alors, le site de l'association, sur Internet, vous tapez...
Dans le micro, monsieur.
Le site de l'association, sur Internet, vous tapez Association culturelle de Beaulieu, et vous aurez tous les renseignements.
Voilà, alors une deuxième exposition simultanée, on a trouvé cet adjectif, va se dérouler, dans le même esprit, quoi. Mais cette fois-ci, les œuvres seront en vente, oui, parce que les artistes, il faut bien que ça se nourrisse, hein. Donc, cette expo sera directement à l'entrée de la salle des Combert, elle s'intitule « Les portes de l'imaginaire ». C'est des œuvres de Christine Oursin, Audi Saban, Bernard Thomas Roudet, Jean-Yves Gosti et Jean-Michel
Chénet.
Alors Jean-Michel Chénet, c'est celui qui a organisé, qui a regroupé toutes ses œuvres avec la participation de notre ami François Mathieu. Donc ces œuvres seront en vente. Si vous les acquérez, vous aidez ces artistes, vous aidez l'association, vous aidez toute cette démarche qu'on a. Et une autre exposition a lieu du fait du CMN, Centre des Monuments Nationaux. Cette deuxième expo a lieu dans la Bastiale, dont elle s'appelle Quatuor, tout simplement parce qu'il y a 4 artistes, 3 peintres et 1 sculpteur. Et une autre exposition de photos dans le cellier de Essen-Laure. Voilà pour toutes ces nouvelles. Troisième expo en octobre, mais nous aurons le plaisir de vous en reparler.
Alors je voudrais demander... à Monsieur Bouillet qui est arrivé pour pendre les œuvres, les tableaux, le travail. Comment il a trouvé notre région qu'il connaît un peu ?
Alors je l'ai trouvé à la suite de vacances familiales il y a 2 ans. Je n'avais fait qu'y passer jusque là et là j'y ai séjourné. La question est une question esthétique, c'est-à-dire comment au niveau de... Je l'ai trouvé très... Alors d'une part, affectivement, il y a des correspondances qui font que j'ai eu énormément de plaisir à revenir. Il faut dire que j'étais déjà passé 4 fois à l'abbaye de Beaulieu lorsque j'étais venu pendant un séjour d'une dizaine de jours. J'étais venu, non pas par hasard, mais parce que je connaissais de nom. Et comme j'ai été tellement émerveillé par ce que j'y ai vu, j'y ai entraîné pendant 10 jours, 4 fois de suite, tout un tas de monde que je connaissais dans la région. Voilà. Et donc j'y reviens là. Donc on a également rameuté tous les gens que l'on connaît pour qu'ils y viennent, évidemment. Et je trouve que c'est une région assez extraordinaire, non seulement pour le plan, au plan géographique, bien sûr, mais au plan humain, c'est-à-dire au plan de la façon dont elle est habitée et dont on continue de la faire vivre et de l'entretenir.
C'est une région d'accueil. Notre région possède, enfin je dis notre région, je suis un peu culotté puisque moi je suis du Beaujolais, mais j'ai cette région-ci, c'est une région d'accueil qui a, dans une commune comme Ginal, par exemple, une trentaine de résidents anglais, ce qui est beaucoup. Tout ça pour dire que ceux qui crient contre les immigrés devraient y réfléchir à deux fois. Est-ce que c'est grâce à ces immigrés que l'abbaye de Beaulieu a pu survivre à la ruine, puisque Pierre Brache et Geneviève Bonnefoy étaient aussi des émigrés venus de Paris? Oui, je posais la question à Monsieur Bouillet parce que il me semble que la façon dont les relations s'établissent entre les gens, la chaleur qui se dégage chez les gens du Rouergue fait penser un peu à non seulement aux cisterciens, bien sûr, par la rigueur, la rudesse un peu, mais aussi par l'inventivité aux gens qui pratiquent l'art brut. On en reparlera tout à l'heure avec le musée des outils d'antan. Il me semble que c'était une visite très, très bienvenue. Et j'espère que nos amis du Rouergue et du Quercy tout proche vont faire une haie d'honneur à Monsieur Bouillet pour le remercier de tous ces magnifiques ouvrages qu'il a apportés et qu'il met à notre disposition et qu'il nous permet d'essayer de comprendre, de découvrir, parce que aucun d'entre nous ne les connaissait, mais qui nous permettent de comprendre que ben peut-être nous, tout bas du peuple qu'on est, on n'est peut-être pas si bête que ça. On en est à combien en temps ? Les outils d'antan. Donc les outils d'antan, c'est un petit musée, on dirait maintenant un écomusée, au pied de Verfeil, de la colline de Verfeil, de la Bastide de Verfeil, qui a été créé par Hubert Caz dans l'atelier dans lequel il a travaillé une partie de sa vie, dans lequel il a fabriqué des machines, imaginé des machines. Il a eu jusqu'à 11 salariés. Hubert Caz, c'est un autodidacte, il a un CAP, c'est pas un ingénieur, il a pas fait de grandes choses. Par contre, c'est quelqu'un d'extrêmement ingénieux. Vous allez découvrir, sur le petit reportage qu'on a fait, quelques-unes des machines, des outils qu'il présente. Mais n'en restez pas à ce que va vous montrer ce reportage. Il présente plus de 1000 outils et machines dans son ancien atelier. Depuis des pinces qui, moi, m'ont interrogé, je me suis demandé à quoi ça pouvait servir. Et notamment, j'ai découvert une pince, moi qui suis pourtant d'une région viticole, dont j'ignorais la réalité. Et c'est une pince qui sert à greffer la vigne. Parce que notre région était une région productrice de vin, bien sûr, et vous le verrez aux outils d'antan. C'est une pince qui a été inventée à Saint-Antonin-Nobleval. Et oui, nous avons aussi, nous, nos artistes, et pour être de l'art brut, je vous garantis que c'est de l'art brut, les machines que présente Hubert Caz. Vous allez découvrir que nos anciens étaient peut-être petits, mais qu'ils étaient sacrément musclés et costauds pour manier les engins qu'ils maniaient à la main. Vous découvrirez une batteuse à main, actionnée à la main, une batteuse à blé, bien sûr. Vous découvrirez des cogniers que vous aurez peut-être du mal à soulever. Il faut être bûcheron canadien pour se servir de ça. Et nos anciens les créaient. Quand ils avaient besoin d'un outil, ils se l'imaginaient, ils se le fabriquaient. On est presque dans l'art brut. Maintenant, place au reportage.
Bercaz, vous avez créé ce musée des outils d'antan, donc dans un ancien atelier de
mécanique générale.
Donc vous étiez forgeron, mécanicien.
J'ai commencé maréchal ferrant, la forge, et après on a fait l'entretien poids lourd. Du TP, la fabrication de ces machines à laver, centrifugeuses, l'entretien de la grande découverte à Carmont. Et on a madrouillé un peu partout. Hein, ouais. Enfin, bon.
Vous avez fait une partie des outils des carrières de Lexos.
Oui.
Donc les tapis roulants, les cribles.
Les tapis roulants, c'était surtout la grande découverte à Carmont. Oui. On avait l'entretien des bandes transporteuses sur plusieurs kilomètres. Là, on faisait l'entretien. On a fait un peu partout ce qu'il fallait faire en campagne pour arriver à vivre.
Et donc, arrivé à la retraite.
Mais à l'arrivée à la retraite, ma passion avait toujours été les vieux outils, les vieilles choses, ça m'a toujours intéressé.
Tous les outils, toutes les machines que vous avez donc ici d'exposer, c'est tous des outils, des machines qui ont été utilisées par...
Dans l'ensemble, dans la région.
Dans la région. Essentiellement par des agriculteurs.
Il y a d'autres métiers qui... Mais la quasi-totalité, c'est des agriculteurs, surtout les agriculteurs qui l'utilisaient.
Alors, donc, je vais rappeler où vous êtes situé. Donc, quand on arrive de Parisot et qu'on se dirige vers l'Aveyron, on traverse Ginals et l'abbaye de Beaulieu, on continue sur environ 1,5 km, 2 km, et en bout de la ligne droite, au pied de la colline de Verfeil, sur la gauche, que le musée des outils d'antan, qui est une association, loi 1901.
Oui. Exact.
Dont Hubert est le président, le fondateur.
Plus maintenant. J'étais président et j'ai cédé la place à mon fils parce que j'ai jugé que moi je commençais déjà à me faire assez vieux et que la place était pour les jeunes.
Vous avez quel âge, Hubert?
82, dépassé même de quelques mois.
Vous êtes ouvert en juillet et en août
Juillet, août et septembre, toutes les après-midi sans exception. Après le mois de mai et juin, toutes les après-midi, week-end et jours fériés. Et sinon, toute l'année sur rendez-vous.
Vous avez dans le musée plusieurs zones. Donc la première zone que l'on découvre quand on arrive.
Le matériel un peu plus gros, oui. Puis le petit matériel et celui qui est moyen.
Voilà. Donc on va commencer par le matériel le plus gros, avec des machines qui...
Fonctionnent.
Toutes fonctionnent.
Tout fonctionne et tout est repeint aux couleurs d'origine.
Repeint aux couleurs d'origine, rénové et fonctionnant parfaitement.
Voilà, ça c'est ça.
Donc devant nous, nous avons
Des aveleuses.
Des aveleuses. Donc avec leur peigne en bois,
oui.
Bien caractéristique des années 50, je pense.
En plus. 1900, même peut-être un peu avant. Ah oui, elles ont, ça a plus d'un siècle. Hein,
parce que j'ai vu ces machines fonctionner dans le Beaujolais.
Ah oui,
quand j'étais enfant.
Ça a fonctionné plus tard.
Ça fonctionnait plus tard. Oui. Et nous avons à côté donc une faux à blé.
Une faucheuse
à blé,
oui. Qui était équipée avec un appareil à moissonner qui se faisait à la main.
Et on était deux sur la machine, une pour...
Un qui conduisait les bêtes et le deuxième qui s'occupait de la machine avait le râteau pour faire les paquets.
Oui. Et à côté, nous avons donc...
Alors, il y a des faucheuses.
Des faucheuses, oui.
Il y en a 17 ou 18, je ne sais pas exactement.
Oui.
Mais aucune les mêmes.
Oui.
Soit par modèle, soit par marque. Toutes font le même travail, on est d'accord là-dessus.
Ouais.
Mais c'est des modèles différents.
Et puis, un petit peu plus loin.
Alors, il y a une faneuse.
Une faneuse, oui.
Il y a une moissonneuse liaise qui fonctionne complètement sur place. Parce que j'ai ajouté un moteur électrique pour faire voir aux gens comment ça fonctionne.
Avec sa grande roue qui ramenait donc le...
Oui, avec les rabatteurs pour tenir les céréales et les coucher sur le tapis.
Oui.
Là, ça fait des trieurs à grains pour séparer les cassés, les petits, les gros et les moyens. C'est un trieur, ça me l'indique. Un trieur qui a eu le Grand Prix de la Foire Internationale de Paris en 1900.
Oui.
C'est marqué d'ailleurs dessus encore.
Et qui est composé donc d'une série de rouleaux qui permettent permettre de trier les différents éléments.
Avec des grilles qui n'ont pas les mêmes trous pour que les graines puissent passer.
Et dessus,
ça c'est les caissons.
C'est les caissons que l'on mettait dessous pour récupérer les grains. Et là, donc...
Après, il y a des batteurs. C'était des premiers batteurs, mais à bras. Ils s'y mettaient à deux pour tourner. Et le troisième qui faisait passer les céréales pour les dépiquer. Donc, tout tombait par terre. Le grain, la paille étaient ensemble. On récupérait la paille avec les fourches. Et on récupérait le grain. Et on le passait après dans le tarare. Pour le trier, ventiler la paille, les poussières et récupérer les grains. Alors là, il y a trois modèles. Il y en a un, celui-là est à bras. Le troisième, il est pour un manège pour les chevaux. Et après, est arrivé les premiers moteurs à pétrole. Donc, le troisième, il y a les poulies. On peut les faire tourner avec un moteur. Mais après, ah, c'est petit. Et après, il y a eu les plus gros. Il y a eu celui-là.
Oui.
Et encore un peu plus gros, jusqu'à maintenant, c'est des monstres qu'il y a.
Oui, donc ceux-là, c'est ceux, quand on était jeune, c'est ceux que l'on utilisait.
Oui, voilà. Ouais.
Il est magnifique, donc avec sa caisse en bois orange et les pièces métalliques en gris. Et donc les sacs qui permettaient de récupérer
les grains.
Et il était entraîné par une courroie.
Ou les locomobiles.
Les locomobiles, voilà.
Certainement. À l'époque, c'était certainement des locomobiles. Ou alors après des tracteurs ou moteurs auxiliaires.
Oui, c'est locomobile dont on a vu les dernières dans les années 1950.
Oui, certainement. Ouais.
On retombe sur des faucheuses et on arrive vers les tracteurs.
Ils sont remis en état, ils fonctionnent tous, repeints. Il n'y a qu'à mettre la batterie. Démarre.
Et vous avez un magnifique tracteur Porsche diesel qui faisait combien de chevaux?
22 chevaux. Vraiment, à l'époque, les chevaux étaient plus gros que maintenant. Là, on a des petits chevaux.
Oui.
Avant, on avait des gros.
C'était un engin magnifique, rouge vif. Hein.
Ah, c'est sa couleur d'origine. On a fait bien attention de respecter bien les couleurs d'origine.
Et là, il tourne parfaitement.
Ah oui.
Vous pouvez le mettre en route. On entend le bruit caractéristique des moteurs Porsche. On chauffe un peu le moteur. Donc il avait déjà des bougies de chauffe. Et il est de quel âge?
Il est né en 57, celui-là. Il n'était pas prévu que vous veniez, donc on n'avait pas préparé pour que le tracteur démarre quand vous serez là.
Il démarre au quart de tour.
Quand je vous dis que tout démarre,
ouais.
Tout démarre.
Ouais.
Preuve faite.
On a un Renault.
Un Renault qui est en cours de restauration, il n'est pas tout à fait fini. Celui-là, il manque quelques pièces qu'il faut récupérer. Et après, on y taillera un costume comme les autres, quand il sera complet.
Ouais.
Et celui-là, il y a un McCormick, un 240.
Un Pony.
Un Farmac. Le Farmal et l'Utility.
C'est des tracteurs qui ont tourné...
qui ont tourné dans la région. Oui.
Dans la région, il y a encore une trentaine d'années.
Oh, il tournait. Oh, celui-là, là, le 240, ça fait 7-8 ans qu'il tournait. Il tournait à Selgue.
Ouais. Et le Porsche, il vient d'où?
Ah, le Porsche, il vient de... Au départ, il était sur le Cos de Saint-Antonin au Bosque.
Très, très belle machine. Et donc, dans le fond, nous avons donc des calèches, des charrettes à cheval.
Il y en a.
Hélas, les chevaux disparaissent. Mais les calèches restent.
Une vieille voiture,
c'est une Citroën, une C4 de 1930.
Elle est assez rare celle-ci, puisqu'elle a des strapontins, on pouvait monter dessus, vous avez le marche-pied pour monter. Et si vous mettiez personne derrière, vous repliez les sièges et vous avez une malle.
Et un nouveau crible.
Voilà, il y a un nouveau crible qui, celui-là, est encore plus perfectionné que l'autre, puisque celui-là, il fait les toutes petites graines.
Et oui, parce que suivant ce qu'on voulait trier, c'était pas les mêmes tamis.
Ah oui.
Ouais, quand on passait des lentilles ou des petits pois ou des fèves.
Ça, c'est certain.
Ouais.
On ne pouvait pas trier les petites graines avec la même machine qu'on triait les grosses.
Ouais. Ce sont des mécaniques très simples, mais très fiables.
Ah oui.
Avec des entraînements.
Ah, c'est manuel, hein.
Oui, des entraînements à courroie ou à.
Là, c'est manuel, hein. Vous avez des
pompe à vin. Là, c'est une série de pompes à vin. Il faisait pas mal de vin. Il a été abandonné parce que c'était tous des vignes à piocher. Et maintenant, pour piocher la vigne, il n'y a plus personne. Elles étaient plantées tellement étroites qu'on ne pouvait pas les travailler mécaniquement. On les faire à la main.
Vous ne pouvez même pas passer le cheval.
Ah non, ouais. c'était prévu pour piocher. Et puis, les alignements, ils étaient un peu... Là, vous avez des fouloirs pour les raisins.
Oui.
Vous avez des broyeurs pour broyer les pommes, pour petites charrues, des sarclaises,
ouais.
Plusieurs modèles, elles font toutes ouais. Le même type, enfin c'est plusieurs modèles. Là c'est des décavillonneurs, c'est pour travailler la vigne.
On a un ancêtre.
C'est une des premières charrues réversibles.
Le corps est en bois et le socle réversible est forgé en acier.
Voilà, c'est réversible, c'est-à-dire que ça permettait de revenir en arrière. C'est l'ancêtre de la charrue, l'arrière, pas la main en bois. Et avant ça, il n'y avait rien. Vous avez un trier à la châtaigne, le principe du trier à la céréale, avec la différence que vous avez les intervalles sur le grillage qui ne sont pas les mêmes. Alors on mettait les corbeilles dessous, les châtaignes en petit, et on tournait la manivelle, et au fur et à mesure que la châtaigne trouvait son trou,
elle passait.
Donc vous aviez la petite, la ouais. Moyenne et la grosse. Ça, c'était des époques assez anciennes, puisque maintenant, il n'y a plus assez de châtaignes pour avoir des engins comme ouais. Ça. Vous avez là un pétrin de pâtissier. En 1900, il faisait de la pâtisserie à Saint-Antonin.
Il est en parfait état, des bascules à plateau. Tous ces outils témoignent d'une vie agricole extrêmement active dans ouais. Le corps.
Vous avez derrière vous là un vélo type Mangard, qui a été fabriqué en 1950. Et la particularité, c'est que c'est la même branche d'arbre qui fait le cadre. Il n'y a pas de bras ajoutés.
Il a été fabriqué par monsieur Germain Jambert de Castanet dans les années 50. Et donc avec roue en bois, bien sûr, rayon en bois, entièrement en bois, sauf la fourche qui est forgée. Oui.
Ah, ça, c'est le panoply de sabotier.
Tous les outils de sabotier, toutes ces gouges, hachettes, vrilles, etc. Et nous arrivons dans le matériel plus petit.
Il faut bien pensez que dans l'ensemble du musée, il y a plus de 1000 articles, petits ou grands. Mais on ne peut pas les énumérer un par un, on en aurait pour une ouais. Semaine.
Donc je redis, les outils d'antan, juste au pied de la côte de Verfeil, quand on vient depuis Parisot, l'abbaye de Beaulieu, ouvert tous les après-midi en juillet, août, septembre, et au printemps, donc...
Mai et juin,
les après-midi,
des jours fériés,
samedi et dimanche. Et puis, sur rendez-vous, ensuite...
Toute l'année.
Vous allez découvrir la vie de vos parents, de vos grands-parents, et vous verrez que cette vie était... Une vie un peu rude, mais qu'elle était sans doute très enrichissante, intellectuellement, culturellement. Hubert, merci. Ah ben, je vous bien. Souhaite beaucoup de visites cet été.
Bien, on l'espère.
Et à bientôt.
Merci à vous.
Je reviens à M. Bouillet. Élodie a une question à lui poser.
Donc je vous ai bien écouté. J'ai compris que l'art brut, c'était plutôt des ouvrages que des œuvres et que les personnalités étaient très importantes pour comprendre ce qu'on voyait. Donc ces personnalités, vous les avez rencontrées. Est-ce qu'il y en a une qui vous a plus marqué, une rencontre qui a été plus forte que les autres et qui fait que vous avez un attachement, une affection particulière pour les productions que vous avez acquises?
Ça n'est pas une colle, mais il est difficile de répondre à cette question parce que toutes sont attachantes par un point particulier. C'est-à-dire, faisant ce tour des auteurs d'art brut, du moins de ceux et de celles qui sont encore vivants, il n'y en a pas tant que ça. Et du coup, ça me permet d'ouvrir une parenthèse pour dire que je ne suis pas sûr que ça continue, l'art brut, que peut-être ça va disparaître. J'ai essayé, il s'est trouvé que j'ai rencontré des tas de personnes qui, à chaque fois, c'était ma démarche également, venaient remplir le puzzle de ma propre identité. Donc, que ce soit Yvonne Robert, que ce soit André Robillard, que ce soit Henriette Zéphir, à chaque fois, j'y ai découvert un morceau de mon identité que je ne soupçonnais pas chez moi. Et donc, à la fois, ça a rempli un puzzle qui était à moitié ou aux trois quarts rempli. On sait à peu près qui on est, mais pas totalement. Et en même temps, ça a ouvert des cases que je ne connaissais pas. C'est-à-dire, à ce puzzle que j'imaginais, se sont ouvertes des pièces que je ne connaissais pas, qui fait que le format général de la figure s'est développé, enrichi, je ne sais pas, mais complexifié en tout cas, quoi. Donc non, à chaque fois c'est des cas différents et à chaque fois c'est des anecdotes et des rencontres différentes.
Et est-ce que vous continuez à partir à la rencontre de ces gens-là? Ou vous estimez que...
Ah non, dès que... Dès que j'arrive à situer quelqu'un ou qu'on me parle de quelqu'un, j'y vais en général. Voilà. J'y vais pour me rendre compte déjà de ce qui se passe, de qui c'est. Et puis, bon, par exemple, je repars la semaine prochaine, je remonte dans la Sarthe pour aller voir quelqu'un que j'ai vu il y a 2 ans et avec qui j'ai envie d'approfondir un peu le rapport, la situation, le sens de ces productions. Enfin, voilà. Donc, j'espère que ça ne s'arrêtera pas.
Donc, notre émission arrive à sa fin. Venez voir l'exposition de M. Bouillet et l'exposition des 4 artistes parisiens. N'oubliez pas le musée Les Outils d'Antan à Verfeil. Et pensez à ce qu'on m'a dit lorsque je suis entré à l'école d'ingénieurs de Strasbourg, il y a bien longtemps de ça, plus de 50 ans. Le premier jour à la première heure, nos profs nous ont dit « Ingénieur, ça ne vient pas de génie, mais d'ingénieux. Et architecte, ça ne vient pas d'artiste, mais d'artisan. » Je pense qu'on est pile dans l'art brut.
Donc on vous dit au revoir et à bientôt. On vous attend samedi pour le vernissage de l'exposition autour de l'art brut. Et on vous dit également à la rentrée au mois d'octobre, une nouvelle exposition vous attendra dans la salle des convers de l'abbaye de Beaulieu. À bientôt.
Au revoir.
Au revoir.